Chapitre 17. Francesco Goya. Partout sont tapis les monstres. La gifle magistrale qu'avait asséné Mona à l'insupportable Guillaume n'avait pas vraiment modifié les rapports de force dans la cour de récréation. Les garçons qui jouaient au football en demeuraient les maîtres, et à qui s'approchait trop d'une partie, ils dégainaient la menace d'un ballon en pleine figure. Ces rebuffades fâchaient de plus en plus Lily. Un jour où la balle en mousse crasseuse roula à ses pieds, elle s'en saisit, la serra contre sa poitrine et hurla « La cour est à tout le monde !» Il y eut une bousculade, mais elle tint bon, courageusement protégée par quelques moulinets de Jade et de Mona. Lily en profita pour clamer qu'elle pouvait inscrire un but contre Guillaume. Si l'une des filles parvenait à marquer, il faudrait partager le terrain, décréta-t-elle. Nouvelle salve de moquerie. Guillaume, sûr de son fait, accepta le défi et se positionna entre les deux poteaux, tandis que son adversaire, à 5 mètres environ, disposait la sphère pour amorcer son tir au but. Là, Lily commit l'erreur d'interrompre sa course au moment de lancer sa jambe. Son corps se désynchronisa et, burlesque, elle tomba à la renverse. Sa maladresse fit croire au triomphe des garçons, hilar et ivre de son humiliation. Mais Jade signala que le ballon n'avait pas été touché et que par conséquent, rien n'était joué. Puis, voyant Lily au sol, confuse de ridicule, elle précisa que c'était elle qui représenterait les filles. Soit, on approuva. Guillaume, toujours aussi arrogant, s'époumona « Les niaques sont nuls au foot !» L'injure raciste faisait évidemment allusion aux yeux bridés de Jade, dont le type eurasien lui venait en réalité d'Ouzbékistan. Elle était tellement rompue aux vacheries de ce genre qu'elle ravala sa colère. Sans élan, épaules dirigées vers le but, torse droit, elle vint propulser le ballon d'un geste sec et précis. Le projectile partit vite, décrivit une courbe légèrement au-dessus du sol, s'écrasa sur le poteau, y rebondit, puis ricocha par chance sur le mollet de Guillaume, qui, surpris par l'impact, plia le genou. Il se retourna et vit la balle noyée dans les filets. Tel Trézégué signant une demi-volée gagnante en finale de l'Euro 2000 de football, Jade se jeta extatique dans les bras de ses amis qui explosaient de joie. Lily avait déjà oublié sa chute. En cadence, elle chantait « On a gagné !» Des élèves examinaient le poteau pour comprendre l'angle du rebond sur l'arête, revivaient l'action en boucle. Jade eut alors ce zèle coupable du vainqueur. « Dehors le redoublant » lança-t-elle à un Guillaume sonné par la défaite. Mona se réjouissait sans réserve de la victoire des filles, mais elle ne put s'empêcher d'observer, comme au ralenti, le déchirement apocalyptique que ces mots produisirent sur le jeune garçon. « Dehors le redoublant !» Comme c'était cruel. Il s'enfuit vers le préau. Être trop grand chez les petits, alors qu'on devrait déjà étudier au collège, c'était tout bonnement insoutenable. Jade avait visé juste, trop juste. Guillaume se réfugia dans les latrines pour pleurer, excédé d'être Goliath perdu au milieu des David, incapable de trouver sa place dans cette école, sinon dans une violence qu'il s'infligeait en fait à lui-même. Mona se faufila dans les toilettes et toqua à la porte, où l'enfant échouait à contrôler ses sanglots. « Sors de là, crétin !» lui cria-t-elle. « On l'a dit, la cour est à tout le monde. Elle est à toi aussi. » Alors qu'il déambulait avec sa petite fille sous les arcades du passage Richelieu, Henri sentit qu'on lui tapotait l'épaule. Il se retourna, surpris. « Vous vous souvenez de nous, monsieur ?» Le vieil homme leva les sourcils, ajusta ses lunettes, esquissa un mouvement négatif et méfiant. Mona, elle, reconnut cette paire de têtes.
« Oui, oui, c'était devant Franz Hals !»
Et en effet, il s'agissait de ces jeunes gens qui avaient discrètement écouté l'échange d'Henri et de Mona face à la bohémienne 3 mois auparavant. Henri les remit enfin tous deux. Ses rides se détendirent. « Évidemment !» Les deux amants qui ignoraient s'ils l'étaient. Votre réflexion a-t-elle avancé depuis ? Le duo qui se tenait par la main opina de concert avec le même sourire, émouvant Inigo.
« C'était juste pour vous remercier, monsieur, » ajouta le garçon, « car c'était extraordinaire de vous écouter la dernière fois. Mais on ne vous dérange pas plus. Aujourd'hui, nous allons voir la Mésopotamie. »
Mona trouva ce mot bien trop compliqué pour s'avérer attrayant, bien qu'il eut le mérite de lui évoquer un gros pachyderme. « Eh bien, trinquez donc à l'affreux Pazuzu avec un blanc sec, » leur glissa Henri. « Ma petite fille et moi avons rendez-vous avec Goya. »
La peinture exhibait le corps morcelé d'une bête sur un plateau de bois neutre, surplombé d'un fond noir sans aucun décor. La toile était d'un très modeste format de 45 sur 62 cm, propice aux natures mortes et à la trivialité de leur sujet. À gauche de la composition, de profil et tournée vers la droite, la tête d'un agneau était posée sur sa base. L'œil s'ouvrait, quoique la paupière semblât lourde. Sous le museau, la babine laissait apparaître trois dents. Était-ce à cause de la découpe au niveau du col ? Le fait est qu'un dépiautage partiel laissait palpiter des tissus sous-cutanés jusqu'à la crête faciale, tandis que le reste demeurait velu et beige, malgré quelques macules de sang. Il y avait les deux parties de la cage thoracique montrées dans leur face interne, creuses et charnues. L'une, bien au centre du tableau, était posée à la verticale. Elle tenait sur la selle et s'élevait en continu vers le carré rythmé de sept côtes. La seconde, dans son dos, se trouvait étalée. Les nuances de grenat, d'amarante, de pourpre, donnaient à la viande un aspect sinon faisandé, du moins un peu obscurci. Mais outre les gammes de rouge, il y avait également des blancs, parfois légèrement jaunis ou grisés, qui figuraient les os, bien sûr, mais plus encore les deux reins presque gélatineux, voire globuleux dans leur graisse, encore accrochés à leur quartier par un cordon gluant. Le tout était jeté en touches épaisses par une main qui visait l'expressivité tremblante de l'ébauche, plutôt que la sérénité de la finition. Mona fut prise d'un imperceptible malaise et interrompit son observation au bout de 10 minutes seulement. Elle ne sut formuler sa gêne. « Mais enfin, » ressassait-elle sans avoir les mots pour le dire, « comment la peinture, censée exalter la beauté, pouvait-elle s'enorgueillir d'un pauvre animal en 3 morceaux ?»
Henri s'attendait à cette résistance. Réussir à faire sentir Goya à une si jeune âme était une sacrée gageure.
D'abord, Mona, ce tableau est considéré comme une nature morte.
C'est là le genre de peinture qu'on situe communément au plus bas de l'échelle artistique. Certes, estimait-on traditionnellement, la représentation des objets et des animaux inertes pouvait faire valoir l'habileté d'un peintre et dévoiler la beauté des choses du quotidien. En revanche, prétendait-on, un tel genre se révélait incapable de dispenser un message moral et d'élever l'esprit du public. Goya a peint fort peu de tableaux de ce type, car cela ne correspondait pas à ses aspirations ni à son rang à la cour d'Espagne, où il fut un maître très aimé des rois Charles IV puis Ferdinand VII. Cette nature morte est donc une rareté dans son parcours. Elle n'en demeure pas moins révélatrice de sa très grande originalité.
Dadé, tu dis que la nature morte peut montrer la beauté de ce qui nous entoure. Et pourtant, l'artiste peint quelque chose d'horrible.
Mais ce n'est pas une nature morte comme les autres.
À ton avis, de quoi s'agit-il ?
Bah, on l'ignore. Mais j'imagine que c'est une cuisine et qu'on va préparer cette viande pour la manger.
Elle avait répondu avec résignation, sans sa bonne humeur habituelle.
C'est possible. Mais dans ce cas, il ne s'agirait au mieux que d'une découpe primaire, comme disent les bouchers. Car les reins, destinés à devenir des rognons, n'ont pas été séparés de la selle, ni la selle du carré. Et surtout, Goya a esquissé suffisamment de fines traces jaunes sur la tête pour indiquer que le doux pelage subsiste sur la chair. Il en va de même pour les deux quartiers, d'après l'épaisseur de leurs contours. Ce n'est que suggéré, mais il semble encore couvert de peau. Un agneau en morceaux que personne n'aurait dépiauté en amont, c'est insalubre et malsain.
Devant nous, rougeoie une chair animale, destinée à être mangée, certes, mais elle s'apparente aussi à des fragments de corps humain.
Est-ce de la viande ou un cadavre? L'ambiguïté subsiste. À ces propos sans concession, le trouble de Mona empira. Aussi Henri hésita-t-il à interrompre la séance. Mais il réalisa que si, d'aventure, sa petite-fille perdait définitivement la vue un jour, il ne lui resterait qu'un souvenir biaisé et odieux d'un des plus grands artistes de l'histoire. Il reprit plus sobrement la biographie du peintre. Pour comprendre Goya, il faut garder à l'esprit sa vie. Après d'importants efforts, il est devenu un homme très sollicité, recevant des commandes prestigieuses. Il était le portraitiste des princes et un peintre religieux de puissante renommée. Et pourtant, aux alentours de 45 ou 50 ans, à un âge où il aurait pu se reposer sur sa réputation, il bifurque brutalement. Il se met à explorer les zones obscures de l'humanité. Mais que s'est-il passé? Goya était né en 1746. Ce changement de trajectoire intervient à la suite d'une grave maladie, sans doute la malaria, qu'il contracte à Cadix en 1792. Il passe des semaines à suer d'une fièvre qui le laisse quasiment pour mort. Il en réchappe, mais a de lourdes séquelles. Il perd l'ouïe, pire. Son cerveau est envahi du dedans par des bourdonnements. Il était à la fois sourd et harassé par une rumeur sans fin.
Oh là là! Alors il est devenu fou?
Non, mais sa peinture s'est davantage intéressée aux pénombres et aux méandres de la civilisation. Il se mit à bousculer tous les codes de ce qui était classique ou sacré. Et tiens, regarde, c'est exactement ce qui se passe dans ce tableau. L'agneau renvoie dans la tradition des Juifs et des chrétiens au troupeau des fidèles et au sacrifice du Messie. Or, il est ici profané par cette féroce mise en pièce. En général, les gens, s'ils ont été tapageurs à leur début, s'assagissent avec le temps et réclament davantage de confort quand l'âge arrive. Goya suivit le trajet inverse. Il eut une jeunesse besogneuse et une maturité tumultueuse. Mona n'était pas certaine de bien comprendre, mais elle était intriguée plus qu'à l'ordinaire. Henri l'attrapa par les épaules, s'accroupit à son niveau, et balayant des yeux avec elle la nature morte sanguinolente, prit son intonation la plus passionnée. Le monde de Goya se désillusionne. Te souviens-tu de l'esprit des Lumières dont je t'ai parlé? Eh bien, l'artiste en fut un fervent adepte. Il demeurait fidèle à la monarchie, tout en entretenant une vive complicité avec de grands penseurs espagnols, comme Gaspar Melchor de Rovellanos et Martin Zapater, qui souhaitaient sortir de l'obscurantisme religieux, casser les dogmes et encourager le libéralisme. Mais le peintre et ses amis ont également dû déplorer les trébuchements de cette noble aspiration au progrès. Goya fut témoin de ses effets pervers. Il a vu comment des idéaux d'équité justifiaient par exemple la guillotine et comment la Révolution a fini par accoucher de Napoléon.
Mais c'était un héros, Napoléon dit.
Tout dépend du camp dans lequel tu te trouves. Pour la France, c'en était un. Mais pour le reste de l'Europe en général et pour Goya en particulier, c'était un conquérant sanguinaire. Le 3 mai 1808, à Madrid, les troupes de Joaquin Murat, le plus fidèle officier de Napoléon, fusillèrent sans procès de braves résistants espagnols opposés à son pouvoir. Et Goya y était, figure-toi. Il en demeura éperdument malheureux, et il peignit cet horrible massacre 6 ans plus tard. Quant à notre nature morte, elle date précisément de cette période, entre 1808 et 1812. Elle est hantée par la violence. Goya pose d'ailleurs sa signature en petites lettres dans la flaque de sang qui coule du visage de l'agneau, afin de s'identifier à la pauvre bête. Il se considère lui-même comme un être qui a perdu la tête. Et examine enfin le rehaut blanc en bas à gauche de l'œil. Il le fait briller d'une lueur à la façon d'une buée de larmes. Cette toile palpite d'un sentiment d'absurdité et de désastre. Mona restait coite, infiniment troublée. Son grand-père l'invita à s'approcher encore, à fixer cette touche picturale qui était comme maçonnée à la truelle. La voix du vieil homme se fit lente et douce. La peinture de Goya nous apprend que les monstres sont partout. Ils se tapissent parmi les inquisiteurs, les militaires, les sorcières, les vieilles croyances ou les modernes espérances. Dans le rire, dans les paroles de chansons, dans les fêtes, sous la lune et en plein jour. La peinture de Goya nous apprend que, quoi qu'il arrive, l'humanité produit et produira du monstrueux. Qu'elle est une machine à cauchemar. C'est effrayant, mais la peinture de Goya nous apprend aussi à l'admettre, à nous montrer lucides sur notre part d'ombre. Mieux, une fois cette tragique leçon acquise, elle nous apprend à fabriquer nos propres monstres pour les sublimer, cesser d'en avoir peur. Dans sa plus célèbre gravure, Goya dessine un homme accablé à son secrétaire, assailli par des rapaces nocturnes. L'estampe est titrée en espagnol « El sueño de la razón, produce monstruos ». Le terme « sueño » est ambivalent. Il peut vouloir dire que le sommeil de la raison engendre des monstres, ce qui est logique. Suspendre son intelligence, c'est laisser la porte ouverte au pire. Mais « sueño » peut aussi vouloir dire que le rêve de la raison engendre des monstres. Et en ce sens, que l'aspiration du cerveau, son idéal, consisterait à les créer selon ses propres fantaisies. Et maintenant, Mona, regarde les reins.
Tu as raison, Dadé. Ils sont comme des monstres. On croirait voir des yeux poussés sur de la viande.
Et elle cacha ses propres yeux derrière ses mains. Henri n'ajouta plus rien. Il voulait demeurer sur cette image à elle, tout à fait inconsciente de sa force. On croirait voir des yeux poussés sur de la viande. C'était cadencé comme un alexandrin de Baudelaire. C'était de la poésie. Et Henri se demanda si ce n'était pas dans cette direction qu'il devait chercher le fameux secret du langage de Mona. Cette singularité dans l'expression qu'il sentait sans pouvoir la définir. Mais il reflua. Le mystère de sa petite musique ne relevait pas de la sophistication ni du raffinement métaphorique. Il fallait continuer d'enquêter et d'écouter, se résigna l'aïeul, non sans plaisir. Ils partirent épuisés. Henri n'avait jamais autant malmené sa petite fille face à une œuvre, mais c'était indispensable pour entrer dans la fourria du XIXe siècle. Et il était à la fois fier d'elle et de lui-même. Toutefois, en marchant dans Paris, il tint à tempérer l'image traumatique qu'il venait de donner du peintre espagnol. Il allait lui parler du chocolat que l'artiste adorait manger jusqu'à s'en rendre malade. « Ah ! J'allais oublier de te révéler la gourmandise préférée de Goya. »«
De l'agneau ? »